Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. La 46e édition du Florilège vocal de Tours, compétition internationale de chant choral, se tenait du 26 au 28 mai 2017. 7 chœurs, 6 pays, 3 jours de concert. Cinéma Paradiso et le Dahu vous proposent deux émissions spéciales à cette occasion. Voici un entretien avec François Bazola, conseiller artistique du concours, réalisé au Grand Théâtre de Tours. Vous entendrez également des captations réalisées lors du concert de clôture, le 28 mai 2017, place de la Résistance. Bonjour François Bazola.
Bonjour.
Alors, il me semble, si je ne m'abuse, que vous êtes directeur artistique du Florilège Vocal.
En fait, mon titre exact, c'est conseil artistique. Le Florilège est une association avec un président, un bureau, un trésorier, etc. Et il y a aussi, donc, à côté de l'association, un conseil artistique, et nous sommes deux, Alain Louiseau, qui est un des responsables du mouvement Cœur Joie, et moi-même. Ma mission, alors, on va dire à court terme, puisqu'on est vraiment dans le feu de l'action ici, puisque nous sommes dans le week-end du Florilège, donc je participe à certains jurys, j'accueille le jury, parce que donc, c'est un jury international, avec là cette année nous avons un Russe, un Lituanien, une Slovène, une Irlandaise, donc il faut voilà, parler un peu plusieurs langues, anglais, allemand ou italien, et puis donc accueillir les gens, leur expliquer comment ça fonctionne, donc ça c'est une de mes fonction. Et par ailleurs, donc en fait, pendant le reste de l'année, c'est participer à la sélection des chœurs qui vont venir pour le Florilège, puisque les chœurs envoient des fichiers audio, des vidéos, et ils sont sélectionnés ou pas. Voilà, donc ça fait partie faire partie de cette commission. Et puis aussi, de temps en temps, donner des idées ou donner un avis sur si on nous demande, par exemple, est-ce que telle épreuve... nous sommes aussi là comme force de proposition, par exemple, proposer qu'une des pièces interprétées par les chanteurs soit faite par chœur, avec une mise en scène, faire évoluer, faire bouger un peu les choses. Parce qu'on est à la 46e édition cette année, évidemment c'est une longue histoire, mais il faut toujours être en mouvement, toujours essayer de chercher des choses nouvelles et essayer de dynamiser, moderniser, raviver le projet.
Alors vous avez dit les mots sélection, dossier, donc il ne faut pas perdre de vue, je crois que certes c'est un événement culturel ce Florilège, mais c'est aussi une compétition internationale.
Complètement, c'est la seule compétition de ce genre en France, concours, hein, c'est un concours, une compétition de chant choral, au sens très large, hein, puisqu'il y a des formes différentes, des effectifs, si dans son sens on voit mixte, à voix égale c'est lorsqu'il n'y a que des hommes ou que des femmes, dans le chœur, et donc c'est une compétition, sélection, les chœurs qui envoient des témoignages de leur travail du monde entier, et puis on les sélectionne sur la fin, début novembre à peu près, et après on leur fait part du choix, positif ou négatif, dans la foulée, et donc et ensuite ils viennent, ils préparent un programme qui est encadré par un règlement, il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est une compétition, effectivement.
Alors c'est quoi ces choses qu'on peut faire et ne pas faire, par exemple?
Alors, par exemple, hier, on avait ce qu'on appelle le programme imposé. Alors le programme imposé, il y a certains critères qui sont déterminés par le Florilège de Tours, par l'organisation. Un certain nombre d'abord sur la durée de leur prestation, du fait de pouvoir avoir un accompagnement ou pas d'accompagnement, combien d'instruments, différentes périodes, par exemple avoir une pièce composée, une œuvre avant 1750, et puis une œuvre avant 1900, et puis une œuvre du 21e ou du 20e et du 21e siècle. Donc voilà, on donne des cadres. Ça, c'est le programme imposé d'hier soir. Et puis ce soir, donc, il y a l'œuvre, le programme libre, c'est la seconde partie. Chaque chœur, en fait, vient au moins pour participer à deux séries d'épreuves. Programme libre, là, c'est vraiment très, très libre. Il y a juste une durée qui est imposée pour rester dans que les choses soient équilibrées, bien sûr. Ils sont libres à eux de présenter ce qu'ils veulent. Alors évidemment, le jury tient compte de la façon dont le programme est composé. S'il n'y a que des œuvres en allemand ou que des œuvres en latin ou je ne sais pas, enfin ou que des œuvres du XXe siècle, là, il faut aussi quand même que ça soit varié. Mais en tout cas, c'est un programme libre. Voilà, ce sont les deux phases. Et puis la troisième phase, mais qui n'est pas en fait qui va être faite que par un certain nombre de chœurs sélectionnés, c'est le Grand Prix de la ville de Tours. Donc c'est le dimanche après-midi. Et donc sont sélectionnés pour ce Grand Prix, en général les 3, 4, 5, ça dépend des années, meilleurs chœurs. qui vont donc, c'est une nouvelle compétition, c'est une autre compétition qui commence avec d'autres critères, puisque là il s'agit de pouvoir se qualifier pour le Grand Prix européen, puisque Tours, donc comme je l'ai dit, c'est le seul concours de ce type-là en France, mais il appartient à une fédération de concours européens qui s'appelle le Grand Prix européen de chant choral. Il y a une ville en Italie qui est Arezzo, une ville en Hongrie, Debrecen, une Maribor en Slovénie, voilà, les différentes Tolosa en Espagne, et il y a un certain nombre de villes qui se réunissent, et le concours européen a lieu tous les ans dans une de ces villes. Et le lauréat, par exemple, le chœur qui va avoir le Grand Prix de la ville de Tours demain, parce qu'il y en aura un, forcément, va se présenter au Grand Prix européen de l'année prochaine. Il représentera le concours de Tours, et chaque ville, puisque dans chaque ville il y a un concours tous les ans, chaque ville envoie donc un chœur qui aura gagné le Grand Prix de cette ville pour le concours européen de l'année suivante.
Donc c'est quand même un enjeu important pour ces jeunes chanteurs, plus ou moins jeunes d'ailleurs.
Oui, oui, non, mais en général ce sont des chœurs assez jeunes, mais de toute façon l'enjeu est important parce que j'ai parlé du Grand Prix de la ville qui permet d'aller au concours européen, mais dans les catégories dans lesquelles ils se présentent, donc suite aux deux étapes imposées et libres, les chœurs peuvent gagner des prix. C'est-à-dire dans chaque catégorie, il y a des prix. Premier, deuxième, troisième prix. Et donc, il y a des enjeux aussi à ce niveau-là, sans parler donc du Grand Prix de la ville de Tours. Donc oui, c'est sérieux et ça demande beaucoup de travail, parce que c'est pas facile de se présenter dans un lieu dont on ne connaît pas l'acoustique. Après avoir fait souvent un voyage assez long, enfin donc c'est une épreuve.
Et vous parliez de programme imposé, ça veut dire que le jury, vous alors, choisit pour chaque chorale sélectionnée des chansons ou c'est tiré au sort ?
Non, en fait, ce qu'on appelle imposé, ce sont juste des paramètres qu'on détermine. J'ai dit donc la durée de l'ensemble de leur prestation, si une œuvre doit être composée avant 1750, une œuvre du romantique, une œuvre du 21e siècle, 20e siècle, une œuvre contemporaine. Mais ce sont des critères, mais on ne choisit pas les pièces. Chaque chœur présente dans ses paramètres la pièce qu'il a envie de présenter, bien sûr.
Par contre, il y a deux compositeurs. Oui. Imposé, là, pour le coup.
Alors, voilà, on a une spécificité aussi à Tours, c'est de mettre en valeur toujours des compositeurs français de chant choral, et le répertoire de chant choral français est très vivant, très, très actif. Il y a beaucoup de compositeurs qui écrivent pour chœur en France. Et donc, cette année, on a deux compositeurs à l'honneur, c'est Jean-Christophe Rosa, François Branciard, qui sont des jeunes compositeurs qui travaillent sur le chant choral. Et on met à disposition des chœurs, donc qui veulent présenter une œuvre de l'un ou de l'autre, un certain nombre de pièces, et ils choisissent dans ce corpus de pièces, ils choisissent une pièce de l'un ou de l'autre et peuvent concourir donc pour un prix spécial. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des prix dans chaque catégorie, dans la catégorie donc des chœurs, catégorie des ensembles vocaux, donc plus petits, et puis dans la catégorie voix égale. Il y a aussi donc des prix spéciaux, c'est le prix donc pour une œuvre française de M. Rosa ou de M. Branciard cette année. Ça peut être aussi un prix de direction, parce qu'on salue aussi le travail qui est fait en termes de direction de chœur. Ça peut être un prix aussi d'œuvre de création. La création, c'est une œuvre qui n'a jamais été donnée, qu'on va entendre donc à Tours pour la première fois. Donc voilà, il y a aussi ces prix parallèles. Et puis il y a, c'était le cas aujourd'hui, il y a tout à l'heure, j'en reviens, le concours Renaissance, donc, puisque c'est la spécificité de Tours quand même, cité de la Renaissance, berceau au bord de la Loire, au milieu de tout ce patrimoine lié à la Renaissance. Donc il y a un prix Renaissance, et là c'est un prix facultatif, c'est-à-dire font la compétition Renaissance les chœurs qui le désirent. Et là on avait quatre chœurs inscrits au reste du programme, mais qui ont voulu participer à ce concours Renaissance. Très intéressant, là, tout à l'heure, à l'église Saint-Julien. Donc, il y a aussi ce prix spécial. Dum 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 d
Que vous pouvez nous dire deux mots alors sur les participants, qui a participé cette année?
Alors cette année on a six chœurs, on en avait sept en fait, et malheureusement tous les chœurs sont confrontés au même problème de financement. Et donc cette année, enfin depuis quelques années, on constate qu'effectivement il y a moins de chœurs qui se présentent parce que ça coûte cher de voyager, ça coûte cher de se loger, voilà. Et donc là on a six chœurs, mais d'un niveau très très convenable, très correct. Un chœur américain qui vient de la côte ouest, un chœur italien, un chœur espagnol, un chœur français, deux chœurs philippins, diversité là aussi internationale qui est importante, c'est la marque de fabrique de ce type de concours.
Donc pour les chœurs philippins, il y en a un où ce sont que des hommes.
Oui, absolument. Voilà. Ouais, il y a un chœur à voix égale, donc chœur d'hommes, voilà. Et un chœur mixte, un ensemble vocal mixte.
Alors si on regarde l'historique du concours, on peut voir qu'il y a quand même des formations très différentes qui ont pu venir au cours de ces dernières années, rien que ça. Je crois qu'il y a déjà eu peut-être le chœur de l'Université François Rabelais, il me semble.
Alors, il y a des le concours est ouvert à tout, à tous, tous les ensembles, tous les chœurs. Il y a eu par le passé, alors je ne sais pas si... Bon, moi, je ne fais pas partie de l'association depuis, non plus, enfin, du fleurilège depuis le début, bien sûr. Mais par exemple, il y a eu des chœurs d'enfants, et notamment de maîtrise, qui ont pu participer. Parce qu'il y a aussi une spécificité à Tours, c'est qu'une année sur deux, il y a un concours national. Là, on est international. Et l'année prochaine, on aura un concours national, qui est réservé aux chœurs français, avec deux catégories, une catégorie adulte, enfin de chœurs d'adultes, et puis une catégorie aussi de chœurs de jeunes, chœurs d'enfants. Ça permet justement aux chœurs français qui se sentiraient peut-être pas aptes, en tout cas, ou qui n'oseraient pas franchir le pas du concours international, parce que dans les concours internationaux, il y a des chœurs qui viennent de partout, et des chœurs excellents, avec des pays, une longue pratique de chant choral. Et donc des chœurs qui, par exemple, ont moins d'ancienneté, des chœurs français qui voudraient se lancer un peu dans l'aventure, parce que c'est une aventure, comme vous le disiez, il y a des enjeux, et puis en même temps, c'est une gageure. C'est pas juste faire un concert comme les chorales peuvent en faire, c'est préparer un concours, donc c'est une dimension un peu spéciale. Donc ce concours français, le concours national, il est important justement pour mettre le pied à l'étrier un peu à des ensembles qui n'oseraient peut-être pas se lancer dans le projet sinon.
Au-delà du florilège vocal, quand même, vous avez de multiples activités. Entre autres, je crois que vous avez votre propre chorale, c'est Consonance.
Alors, j'ai un ensemble, oui, instrumental et vocal, spécialisé en tout cas, qui travaille beaucoup sur le répertoire baroque, parce que ça fait partie aussi, moi, de mon parcours de musicien. J'ai mon activité aussi de chanteur, et donc j'ai beaucoup collaboré avec un ensemble qui s'appelle Les Arts Florissants, donc un ensemble de musique baroque. Et donc, j'ai créé en 2011 à Tours mon ensemble, donc l'ensemble Consonance, comme vous l'avez dit. Et donc je prépare aussi des programmes avec mes chanteurs, mes instrumentistes, voilà. On donne des concerts à Tours et en dehors de Tours. Mais oui, ça fait partie de mon activité. Je suis musicien. Je suis pas voilà être jury comme ça pour un concours, c'est intéressant. Mais il faut aussi soi-même se nourrir de faire vivre sa propre expérience musicale. C'est très important.
Vous travaillez aussi avec le Cepravoix, il me semble,
oui.
Avec les amateurs même.
Oui. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup et auquel j'attache, comment dire, grande importance, c'est de travailler, de transmettre et puis de travailler avec des chœurs amateurs. Moi, je le fais soit à titre individuel où je vais faire des week-ends de formation, de thématiques. Par exemple, j'en ai fait un en janvier dernier, un week-end à Bourges autour de la musique sacrée du XVIIe siècle. Je fais aussi des projets mixtes où donc mon ensemble, musicien, chanteur, instrumentiste professionnel avec un chœur amateur. On l'a fait autour de Bach cette année en avril avec l'ensemble vocal universitaire de Tours, justement. Donc. Et puis, on a d'autres projets de ce type-là. Oui, c'est très important de continuer de collaborer. Alors là, on va avoir un accord de piano, donc on devra peut-être changer l'endroit.
On va se décaler peut-être un peu.
La vie du théâtre, oui, puisqu'il y a des épreuves ce soir, donc voilà. Il y a des chœurs qui vont utiliser le piano, donc il faut que le piano soit quand même juste. C'est moindre des choses.
Bon, peut-être qu'on peut se décaler,
oui.
Quand même.
On va se mettre un peu. Peut-être donc dans le couloir d'accès, là, au foyer.
Oh, je peux laisser.
Oui, on peut se mettre ici.
Donc nous parlions de votre travail avec des amateurs. Et vous,
oui.
En tant que professionnel, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des amateurs? Comment on fait travailler des amateurs par rapport à des professionnels?
Aussi paradoxal que ça puisse paraître, moi je ne change absolument pas ma méthode de travail. Alors simplement, il faut fixer un curseur à viser une autre cible, mais en termes d'exigence de travail, voilà. On sait qu'on pourra atteindre tel ou tel résultat, parce que le niveau du cœur, le niveau vocal, par exemple, fait que ces gens-là, ces musiciens n'ont pas forcément des pratiques vocales qui leur permettent d'accéder à telle ou telle virtuosité vocale ou autre. Mais c'est une exigence. Et puis tout le monde y gagne parce qu'ils sont très demandeurs, parce qu'évidemment, ça les tire vers le haut. Ça leur permet d'aborder, par exemple, nous, on fait une proposition, une consonance plutôt du répertoire baroque avec instruments. Donc, c'est des choses qu'ils ne pourraient pas forcément faire dans leur pratique, dans leur concert, on va dire, habituel. Donc, il y a une confiance, parce qu'évidemment, ils se lancent dans une aventure qui n'est pas forcément évidente pour eux. Tout le monde y gagne, et il y a beaucoup d'enthousiasme, et beaucoup de... c'est très stimulant pour tout le monde, en fait, ce genre de rencontre, bien sûr. La 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 la
Alors avant de vous libérer, quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs pour garder une belle voix ?
Ah, alors la voix, la voix, c'est le corps. Donc on chante avec certes deux petites cordes vocales, mais en fait on chante avec tout son corps. Et donc ça veut dire un travail de respiration, ça veut dire un travail physiologique en profondeur. Comme toute pratique physique, il faut éviter les choses qui peuvent altérer. Évidemment, c'est un peu la palissade, mais je veux dire, si on peut éviter de fumer, si on a des concerts, éviter de boire de l'alcool, parce que l'alcool a tendance un peu à dessécher les muqueuses, donc vaut mieux éviter. Et puis oui, une hygiène de vie qui fait que voilà. Et puis après, c'est un travail, la voix, c'est un travail sur le corps, c'est un travail donc de longue haleine, hein, c'est pas quelque chose qui évolue comme ça du jour au lendemain, mais c'est un travail passionnant, puisque c'est un travail presque, je dirais, pas sans fin, mais en tout cas, on découvre beaucoup de choses, moi-même, donc ça fait quand même maintenant quelques années que je travaille la voix et que je chante, et je dirais pas que je découvre des choses tous les jours, mais en tout cas, c'est passionnant, parce que c'est un travail sur soi, et je dis souvent, d'ailleurs, aux chanteurs, dans les week-ends, dans les séances de travail, notamment avec les chanteurs amateurs, dis que chanter, c'est pas un acte musical, c'est un acte physique, c'est vraiment un geste physique, il faut que le corps travaille en mettant en synergie le souffle, en mettant, le son, évidemment, mais le son, je dirais que c'est la partie émergée de l'iceberg, et donc, il faut... C'est vraiment un acte physique, et c'est un acte qui engage tout le corps et qui fait que souvent on limite le chant au fait de faire des notes, faire des sons, dire un texte, et puis voilà, puis on essaie de chanter en mesure, chanter avec les autres, mais c'est aussi un travail très important corporel sur soi-même.
Une idée d'interpréter, non seulement chanter juste, mais aussi de faire sens avec ce que disent les mots.
C'est essentiel, toute musique vocale, sauf des pièces qui auraient été composées par exemple pour des effets d'onomatopée ou des choses comme ça, ou des choses, mais toute musique vocale, c'est un texte, c'est d'abord un texte sans musique la plupart du temps, donc c'est le matériau de base, et quand on doit restituer une œuvre, quelle qu'elle soit, quel que soit le style, quel que soit une vocale, j'entends, hein, quel que soit le style, la période, il faut se dire, qu'est-ce que je vais raconter avec cette pièce ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et que ce soit de la musique sacrée ou de la musique profane, du latin, d'allemand, enfin peu importe la langue, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message, quelle histoire on raconte. Et ça, c'est des critères, par exemple, je rejoins maintenant le florilège, mais moi, je jury, par exemple, parce que c'est des discussions qu'on a avec les autres membres du jury, qu'on a eues hier soir notamment, on a la partition sous les yeux, on écoute le chœur, on sait très bien, ouais, c'est juste, c'est en place, techniquement, on va dire, les choses sont bien, mais ils m'ont rien raconté, je me suis ennuyé. Voilà, et ça, c'est des choses, c'est des critères très importants, évidemment, qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans la pour un concours, évidemment, encore plus, mais je dirais quand on se lance dans une pratique vocale, quelle qu'elle soit, quoi.
Thank you.
qu'on peut chanter juste, mais chanter faux.
Chanter juste, mais chanter faux. Voilà. Un questionnement intéressant. Non. Ah, il faut quand même résoudre, évidemment, les problèmes de base, qui sont ceux de la justesse en termes d'intonation, c'est-à-dire chanter juste. Bon, ça aussi, c'est tout un travail qu'on peut faire, qu'un chef de chœur doit faire, à la fois dans chaque groupe, de chaque partie du chœur, chaque pupitre, et puis aussi, globalement, au niveau de l'ensemble. Mais une fois qu'on a ces éléments, on va dire, musicaux de base, enfin, essentiels, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut aller au-delà de ça.
Et comment ça se trouve alors ? Ça, c'est le chœur en lui-même qui se porte.
C'est le rôle essentiel du chef de chœur. Le chef de chœur, il a non seulement le devoir, enfin, de faire chanter les gens ensemble, juste, dans des bonnes, d'une manière technique, on va dire propre, mais il a surtout, il doit créer une histoire, il doit créer une intention collective, une intention en termes d'expression, en termes de qu'est-ce que lui a envie d'entendre, et donc par le truchement de son envie à lui. Parce que c'est ça, en fait, diriger un chœur. C'est faire chanter, jouer, enfin, peu importe, instrumentiste ou chanteur, c'est faire jouer des gens et leur faire dire, jouer, exprimer ce que lui a envie d'entendre. Et on entend parfois, malheureusement, trop souvent, des chœurs où il ne se passe rien. C'est parce que peut-être que le chef de chœur n'a pas d'idée, tout simplement. Et ça, c'est sa grande responsabilité.
Eh bien, merci et bon florilège, alors.
Merci beaucoup bonne musique à vous, bonne radio. Au revoir.
Pour cette émission, le Dahu et Cinéma Paradiso remercie Claudia Jarocchi. Le Dahu vous dit à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.